un peu de place. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin, de revenir un petit peu à Palaiseau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Comme vous le savez peut-être, maintenant je suis engagé dans un projet d'église sur Paris, vu que j'habite à partir d'aujourd'hui, on va dire, sur Paris. Je vais déménager tout à l'heure. Si vous voulez savoir un peu plus ce que je fais sur Paris, j'ai quelques petits prospectus du projet d'église. En fait, l'idée, c'est qu'on a 6 églises dans notre famille d'églises, les CAEF sur Paris. Et on va essayer de les faire travailler ensemble, mutualiser leurs ressources et aussi les redynamiser. Donc voilà, c'est ce à quoi on travaille sur Paris. Et si vous voulez aussi quelques nouvelles de comment ça avance pour moi, je peux vous envoyer ma lettre de nouvelles. Vous pouvez me demander à la fin. Je propose de commencer cette prédication par la prière. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux pour nous. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Et Seigneur, je te prie que cette parole transforme nos cœurs, Seigneur. Et je te prie que de filtrer ce que je vais pouvoir dire, de m'inspirer, et que ce que je dise vienne de toi, Seigneur. Amen. Je voudrais commencer ce matin en vous posant une petite question. Est-ce qu'on peut être fier sans péché? Ou même, je vais aller plus loin, est-ce que la Bible nous appelle à être des personnes fières? C'est vrai, dans notre culture, on se dit souvent qu'être fier, c'est assez négatif. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, ou peut-être que vous l'avez même déjà dit, « Oh, un tel, il est vraiment trop fier de lui ?» Je pense aussi que le mot « fier » peut faire un bien fou. Qu'en est-il d'un père qui va dire « Je suis fier de toi, mon fils ?» Dans le texte de ce matin, on va voir que Dieu nous appelle à être des personnes fières. Mais pas des personnes fières de nous-mêmes, plutôt des personnes fières d'autre chose, un peu comme ce père qui est fier de son fils. Dans le texte de ce matin, Dieu va nous donner trois choses qui devraient être la source de notre fierté. Je vous propose de lire ensemble Romains 5, des versets 1 à 11, et de découvrir ensemble ce qui devrait être la source de notre fierté. Je vais lire le texte dans la version sommaire. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré notre première source de fierté. Au verset 2, on lit « Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Paul nous appelle à fonder notre espérance, notre fierté sur l'espérance d'avoir part à sa gloire, à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si on reprend à partir du début du passage, on voit deux choses capitales qui sont essentielles à mon sens pour pouvoir tirer fierté de l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. La première, verset 1, nous lisons « Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. » Dans les chapitres précédents, Paul nous a rappelé ce que c'était que la justification par la foi. Il a commencé son épître en nous rappelant qu'on était tous condamnés à mort. Et il a bien mis en avant que nous étions tous pécheurs, qu'on méritait la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais la bonne nouvelle arrive ensuite dans ces chapitres. Dieu, dans sa grâce, a offert une solution par son Fils pour que l'on soit sauvé, déclaré juste et non pécheur. Cela par la foi et non par les œuvres, nous disent les chapitres précédents. Et la deuxième chose qui est capitale après se déclarer juste, c'est vraiment une conséquence du fait qu'on est déclaré juste devant Dieu. C'est un fruit de ça. Lisons le verset 1 en entier cette fois-ci. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Le fruit de se déclarer juste, c'est la paix que nous pouvons avoir avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Attardons-nous un peu sur ce que cette paix signifie. Je ne sais pas quelle définition on pourrait donner de la paix. Peut-être qu'on pourrait la décrire comme un sentiment, le fait de se sentir tranquille. On dit souvent aussi qu'on a la paix dans le cœur. Mais ce n'est absolument pas de cette paix-là dont Paul nous parle ici. Ce n'est pas cette paix qui est subjective. La paix dont Paul nous parle ici ne dépend pas de nos humeurs, de nos émotions. C'est une paix qu'on pourrait comparer un peu à la paix qu'on signe à la fin d'une guerre. Une paix objective, signée. Elle est signée, attestée par l'armistice dans le cas de la guerre. Je vous propose de prendre un petit exemple pour vraiment bien illustrer cette paix subjective. Imaginez un client d'une banque que la banque appelle pour lui dire qu'il est à découvert et que si sa situation n'est pas régularisée rapidement, il va être interdit bancaire. Vous voyez un peu la menace qui plane sur notre client. Mais alors, à ce moment-là, un généreux mécène intervient. Il a pitié de ce client et dépose sur son compte toute la somme nécessaire pour le repasser dans le positif. Et même bien plus pour lui laisser le temps de voir venir. On peut dire maintenant que notre client est en paix avec la banque. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a un ressentiment ou quelque chose comme ça. Parce que son compte est positif. La banque était la seule personne habilitée à pouvoir déclarer cette paix. Pourquoi ? Parce que c'était elle le parti offensé. De la même manière, la paix avec Dieu est objective, réelle, légale. Elle ne dépend pas de notre sentiment humain, mais d'une déclaration divine. Dieu est le parti offensé. Il est le seul habilité à pouvoir déclarer cette paix. Et vous savez quoi ? C'est chose faite grâce à Jésus-Christ qui a payé la dette de la même manière que ce mécène qui a payé le négatif du client. Jésus-Christ a payé la dette que méritait notre péché. Cette paix ne peut donc vraiment pas varier. Ce qui peut peut-être varier par contre, c'est notre compréhension de cette paix, comment on va la ressentir, comment on va l'avoir, mais nous ne devrions pas douter de cette paix. Car nos sentiments, etc., ne changent en rien le statut qu'on a acquis devant Dieu lorsqu'on a placé notre foi en lui. Imaginons la suite de notre histoire. Notre client de banque, après avoir vu sa dette effacée, et après avoir éprouvé toute la joie, toute la reconnaissance qui va avec, commence un peu à ressentir des remords, de la culpabilité. Notre client ne va pas oser retourner voir la banque, peut-être qu'il a peur de la réaction que la banque pourra avoir envers lui, mais il ne devrait pas avoir peur comme ça, parce que c'est écrit en gros sur son compte, c'est tamponné, seul positif. Il n'a rien à craindre. Et de la même manière, je pense qu'on peut avoir tendance, nous aussi, à douter de notre assurance dans cette paix que Dieu nous donne. Nous pouvons voir cette paix pour nous on peut avoir tendance à penser que cette paix peut varier selon comment nous obéissons à Dieu, selon comment nous nous comportons. Mais non, Dieu a tamponné bien fort en rouge cette paix que nous avons avec lui au moment où nous avons eu foi en lui. Gravons-nous bien ça, ça bien fort dans nos têtes. Nous sommes en paix avec Dieu. Et donc c'est parce que nous sommes déclarés justes par Dieu et que nous sommes en paix avec lui que nous pouvons avoir cette espérance en la gloire de Dieu. On rentre ici un peu dans une dimension éternelle, le statut que l'on a acquis lorsque Dieu nous a déclarés justes, nous permet de regarder vers l'avenir, de regarder vers l'éternité. Et c'est ça qui doit faire notre fierté, nous dit le verset 2, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à être fiers, fiers de notre espérance d'avoir part à sa gloire. J'aimerais beaucoup pouvoir vous décrire la gloire de Dieu sans l'amoindrir. Mais j'ai lu quelques définitions et je peux tenter peut-être de l'approcher un peu en vous disant que la gloire de Dieu représente le rayonnement de la personne de Dieu, sa présence même. C'est son éclat, tout ce qui fait qu'il est admirable, attrayant et effrayant à la fois. Le fait qu'il est saint, pur, juste et bon. Et Dieu nous donne l'espérance de passer l'éternité dans cette gloire-là, dans la présence même de Dieu. On en arrive un peu à la fin de mon premier point, qui était « fier de notre espérance ». Retenons-en que Dieu a fait l'impensable en nous déclarant justes. Gravons-nous dans nos têtes que nous sommes en paix avec Dieu. Mais ne nous arrêtons pas à l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu, vivons cette espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Assurés de notre salut, vivons dans l'espérance de la gloire de Dieu. La suite de nos textes va mettre en avant particulièrement comment cette espérance peut nous aider, peut être un appui pour nous dans certaines phases de nos vies. On vient de voir que Dieu nous appelle à tirer fierté de notre espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et maintenant, on va voir que, bien plus encore, nous devons tirer fierté de nos détresses. Nous lisons verset 3, « Mieux encore, nous tirons fierté de nos détresses. » Alors moi, j'ai été vraiment interpellé par ce « mieux encore ». Je n'aurais pas forcément mis les choses dans cet ordre-là. Tirer mieux encore fierté de mes détresses que de l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mais je vous propose de lire cette démonstration que Paul nous fait par la suite, pour bien comprendre cet ordre-là. Verset 3, « Mieux encore, nous tirons fierté de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. » Est-ce qu'on se rend bien compte de l'enchaînement des choses là ? Paul parle de nos détresses, c'est-à-dire ce qui peut nous faire mal, ce qui peut nous faire souffrir. Ça peut être la maladie, la mort d'un proche, une situation compliquée, des difficultés familiales, la perte d'un emploi. Vous avez sûrement en tête vos détresses du moment. Et Paul nous dit que ces détresses-là produisent la persévérance. Ces détresses nous aident à tenir ferme, à persévérer dans la détresse. Il nous dit qu'on apprend à être persévérant dans la détresse. Et si on continue, on voit que cette persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Dans d'autres versions, on ne lit pas « fidélité éprouvée », on lit que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et je trouve intéressant ce terme « fidélité éprouvée » qui nous renseigne vraiment en quoi consiste cette victoire dans l'épreuve. Nous pouvions être fidèles à Dieu avant un moment de détresse, mais qu'en est-il de pouvoir dire « je suis demeuré fidèle à Dieu dans la détresse » On comprend vraiment mieux qu'est-ce que c'est que cette victoire. On peut dire que notre fidélité a été éprouvée et qu'elle est restée ferme durant la détresse. Mais la démonstration n'est pas finie. L'état final n'est pas cette victoire dans l'épreuve. L'état final n'est pas cette fidélité éprouvée. L'état final de cette démonstration, c'est notre espérance qui est nourrie. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose, espérance ? C'est tout ce qu'on a développé dans notre premier point. Dans notre premier point, on a vu que Dieu nous appelait à tirer notre fierté de l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. On vient en quelque sorte de faire une boucle pour revenir à notre point de départ. Et on vient de voir qu'au final, nos détresses nourrissent notre espérance. Et je pense que désormais, on peut mieux comprendre l'ordre que Paul a instauré en disant « Mieux encore, tirons fierté de nos détresses ». Par là, Paul ne veut absolument pas dire d'oublier la fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Il veut dire que parce qu'on peut avoir, on a cette espérance dans la gloire de Dieu, cette espérance d'une vie éternelle passée avec Dieu, dans sa présence, nous pouvons désormais être fiers de nos détresses. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus centré sur nous-mêmes, sur nos problèmes lors de nos moments de détresse, mais on est centré sur Dieu, sur cette espérance d'avoir part à sa gloire. Le chrétien peut trouver un sens positif à ses inévitables détresses, car il sait qu'elles ne peuvent en rien le séparer de l'amour du Père, qu'elles sont une étape vers la gloire promise. En disant cela, je ne veux vraiment pas minimiser nos détresses du moment. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui ont des souffrances, des détresses en ce moment, même bien plus grandes que ce que je peux imaginer. Ce que je veux juste nous inviter à faire, c'est un peu un mouvement de tête, un changement de position. De passer de ce mouvement où on est comme ça, on regarde à nous-mêmes, à nos problèmes, à notre nombril, à ce mouvement où on regarde vers le haut, vers Dieu, vers l'espérance d'avoir part à sa gloire. Dans nos détresses, fixons notre espérance sur les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et ce n'est vraiment pas facile, je sais. Paul nous dit que cette espérance a besoin d'être nourrie. Et vous savez comment ? D'après la démonstration que l'on vient de voir, c'est par nos détresses que cette espérance est nourrie. Vous savez peut-être ce petit regard qu'on peut avoir vers l'arrière lorsqu'on sort d'une détresse pour voir comment Dieu est intervenu pour nous sortir de cette détresse, ou alors même si on est toujours dans la détresse, pour voir comment Dieu est intervenu pour nous encourager, nous fortifier dans la détresse. Et moi, c'est dans ces moments-là où je suis le plus émerveillé par Dieu, où j'ai le plus confiance aux promesses de Dieu, parce que je vois qu'il est fidèle, qu'il ne m'abandonne pas malgré ma détresse. Et pour conclure cette idée, le verset 5 est vraiment très bon. Il nous dit que l'on ne risque pas d'être déçu. Verset 5, « Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. » Et heureusement que ce verset est là. Vous vous imaginez si tout ce qu'on a dit ensemble avant se basait sur une espérance qui n'est pas certaine. Pour prendre une petite image, si on pouvait comparer nos détresses à des vacances pluvieuses, et que quelqu'un arrivait et qui vous disait « Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai regardé la météo, et demain il va faire beau, ils l'ont assuré avec un indice de 2 sur 5. » Est-ce que vous voudriez placer votre confiance dans cette météo ou plutôt profiter d'un billet d'avion qui vous est offert pour aller finir vos vacances sous les tropiques ? On peut tirer fierté de nos détresses parce que notre espérance dans la gloire de Dieu est certaine. Bien plus certaine que cette météo avec un indice de 2 sur 5. Notre espérance dans la gloire de Dieu est certaine. Un indice de 5 sur 5. Et nous avons encore une autre preuve de ça. Au verset 5 toujours, « Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Dieu a versé dans nos cœurs son amour. Il nous a aussi donné l'Esprit Saint par lequel cet amour est déversé en nous. De Timothée 1, verset 7, « Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. Dieu nous équipe avec le Saint-Esprit pour ces moments de détresse et même pour bien d'autres choses encore. Dans ces moments de détresse, Dieu est avec nous et même par son Saint-Esprit, Dieu est en nous. Alors si Dieu nous remplit du Saint-Esprit dans la détresse, nous avons vu dans 2 Timothée qu'il nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi pour faire face à ces détresses. Je voudrais vraiment insister sur ce qui doit être le moteur de nos détresses, dans nos luttes, c'est vraiment cette espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et pas autre chose, on lit en 1 Timothée 4, 10, « En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui croient en lui. Et pour finir cette partie où nous voyons que Dieu nous appelle à tirer fierté de nos détresses grâce à l'espérance que l'on a, je voudrais m'adresser peut-être aux personnes qui ont déjà vécu plusieurs détresses et qui peuvent dire qu'ils sont sortis victorieuses de ces épreuves, qui peuvent dire qu'ils ont eu cette foi, cette fidélité éprouvée, qui peuvent dire qu'ils sont fiers de leur détresse, fiers de l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Regardez autour de vous dans la salle et vous avez peut-être des personnes qui ne peuvent pas en dire autant, des personnes qui n'ont pas encore, qui croient peut-être en Dieu mais qui n'ont pas encore toute cette expérience de vie avec Dieu. Et je voudrais vous dire que vous avez une responsabilité envers ces personnes qui sont plus jeunes dans leur foi. Pourquoi vous ne diriez pas à l'un d'entre eux ? Ça ne te dirait pas qu'on s'émerveille ensemble devant notre Dieu ? Pourquoi vous n'accompagnerez pas un plus jeune dans sa foi, qui est peut-être en détresse sur certains points, pour l'aider à sortir vainqueur de ses détresses et voir son espérance nourrie ? Je parle peut-être pour plusieurs jeunes, je pense, pour vous dire qu'on a besoin de vous, mais on n'ose pas vous le dire. Je vous en supplie, venez prier avec nous, priez pour nous, venez lire la Bible avec nous, on a besoin de ça, encouragez-nous. Et vous qui êtes peut-être plus jeune dans votre foi, je vous en supplie, ne négligez pas cette aide que les personnes autour de vous vont vous apporter. Lisez la Bible avec des personnes plus âgées dans leur foi. Lisez la Bible, priez avec eux et même priez pour eux. De par leurs expériences avec Dieu, ils ont tellement de choses à nous apprendre. C'est entre autres ça l'Église. Vivons pleinement ce partage que Dieu a instauré en mettant en place l'Église, son corps, le corps de Christ. Et c'est alors naturellement qu'on arrive à notre dernière source de fierté, qui est encore plus importante et qui englobe les autres. Disons verset 11, « Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. » On peut être fier de notre Dieu et donc après avoir vu notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu et notre fierté dans nos détresses, voyons comment on peut tirer notre fierté de notre Dieu. Voyons qu'on peut être fier de notre Dieu, vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous a obtenu la réconciliation, nous dit ce verset 11. Alors, on va développer tout ça, mais je pense qu'il y a deux manières de comprendre ce qui va suivre. Peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est la réconciliation, peut-être que c'est encore quelque chose de flou pour vous. Alors écoutez bien, parce que ce qui suit va peut-être vraiment avoir un vrai impact dans votre vie. Ne partez pas du culte ce matin sans avoir compris ou sans avoir progressé dans votre compréhension de ce que c'est que cette réconciliation que Dieu nous offre. Peut-être que je vais super mal expliquer, mais secouez l'épaule de votre voisin à la fin pour lui dire « explique-moi mieux que Timothée ». Peut-être, ou alors peut-être que pour vous, cette réconciliation, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Ça fait peut-être 5, 10, 50 ans que vous en entendez parler. Mais prenez le temps, vraiment, pour réfléchir à cette base de votre vie chrétienne. Pour pouvoir être, comme le dit le verset 11, encore plus fier de notre Dieu par notre Seigneur Jésus. On avait terminé la partie précédente avec le verset 5 qui nous disait « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. » Et les versets 6 à 8 vont nous expliquer en quoi consiste cet amour de Dieu. Verset 6, « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste ? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien ? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour, c'est quoi ? C'est Jésus qui est mort pour des pécheurs. Jésus, lui qui n'a jamais péché, est mort à notre place, à nous, qui méritions la condamnation éternelle, la mort éternelle. Notre cas était vraiment désespéré. On était sans force, nous dit le verset 6, sans avenir, mais Dieu est intervenu. Et Paul veut vraiment nous montrer la grandeur de cet amour de Dieu dans ces versets. Et pour nous montrer ça, il va nous faire une comparaison qui, moi, m'a fait très mal. Il va comparer l'amour de Dieu d'un côté avec l'amour humain de l'autre. Nous, les humains, nous dit le texte, nous sommes à peine prêts à mourir pour un juste. Le « à peine » nous rappelle qu'on a peut-être en tête quelques faits héroïques de personnes qui se sont sacrifiées pour que des personnes bien puissent vivre. Mais qui serait prêt à prendre la place d'un gars qui a fait une fusillade, par exemple, aux États-Unis et qui va passer sur la chaise électrique? De même, nous dit le texte, peut-être que quelqu'un irait jusqu'à mourir pour le bien, pour une cause noble. Et là encore, on a peut-être plusieurs exemples en tête. Mais qui est prêt à mourir pour un grand trafic, pour qu'un grand trafiquant de drogue soit sauvé d'une grande maladie? Personne, non? Mais pourtant, nous dit le texte, c'est ce que Dieu a fait avec nous. La Bible nous dit que nous pouvons être fiers de Dieu. Et on arrive à ce verset 8 qui nous dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous le voyez là, le fossé entre l'amour de Dieu et l'amour humain? Nous étions encore pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Et c'est cet acte d'amour qui entraîne un réel changement de statut pour toute personne qui place sa confiance en Dieu, toute personne qui place sa foi en Dieu. Voyez un peu le contraste. Nous étions sans force, verset 6, pécheurs, verset 8, ennemis de Dieu, verset 10. Mais pour tous ceux qui sont déclarés justes, qui ont cru en Dieu, comme on peut le lire dans Romains 3, 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Dieu nous donne un nouveau statut. Ces personnes qui ont cru en Dieu sont déclarées justes et sauvées par lui de la colère à venir. Verset 9. Ils sont réconciliés avec Dieu. Verset 10. Alors comprenons bien cette mort de Jésus. Rappelons-nous vraiment en quoi elle consiste. Paul insiste tellement dessus, en particulier dans les versets, dans ces quelques versets, verset 9, nous sommes déclarés justes grâce à son sacrifice. Verset 10, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. Verset 10, toujours, nous serons sauvés par sa vie. Et donc pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, qui croient que ce sacrifice de Jésus est vraiment indispensable pour être réconcilié avec lui. Dieu fait des promesses incroyables. On a vu tout ce que Dieu est prêt à faire pour des personnes pécheurs, des personnes injustes. Mais maintenant que nous sommes déclarés justes, que Dieu nous voit au travers de son Fils comme parfaits, saints, les versets 10 et 9 nous disent que nous devrions, à plus forte raison encore, croire en ses promesses. Verset 9 par exemple, donc puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Et je voudrais vraiment encourager ceux qui ne sont pas encore convaincus de ce que Dieu a fait en mourant pour nous à la croix. Ceux qui ne peuvent peut-être pas dire encore qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager à réfléchir. Pourquoi refuser ce cadeau que Dieu nous fait gratuitement, pour lequel nous n'avons rien à faire, sinon placer notre foi en Dieu? Parce que la Bible est aussi malheureusement claire dans l'autre sens. Car si Jésus, par sa vie, nous sauve de la colère à venir, il existe bien une colère à venir pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Réfléchissons bien. Nous avons donc dit que nous devons être fiers de notre espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Fiers de nos détresses grâce à l'espérance que Dieu nous donne. Et fiers de notre Dieu émerveillé par l'amour qu'il a pour nous, fier de notre espérance, fier de notre détresse, fier de notre Dieu. Ça fait vraiment un sacré programme qui nous encourage vraiment à nous poser devant Dieu pour voir où est-ce qu'on en est dans ce sacrifice de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes fiers de notre Dieu ? Après avoir étudié ce texte pendant un moment pour donner cette prédication, j'étais vraiment émerveillé, fier de mon Dieu, fier de mon Dieu, parce que j'ai réalisé encore plus l'amour qu'il a pour moi, le sacrifice qu'il a fait pour moi. Et j'espère vous avoir un peu transmis cette fierté ce matin. Et ma prière, c'est vraiment que nous puissions tous dire, dans toutes nos situations, même dans nos détresses, assuré de mon salut, je vis dans l'espérance de la gloire de Dieu. Assuré de mon salut, je vis dans l'espérance de la gloire de Dieu. Prions. Et Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes d'avoir part à ta gloire. Merci aussi parce que tu es mort pour nous déclarer justes, pour que l'on soit en paix avec toi. Et Seigneur, quelle preuve d'amour tu as eu pour nous, qui étions pécheurs, qui méritions la mort. Seigneur, remplis-nous de fierté pour toi. Aide-nous à être émerveillés par qui tu es. Que ça déborde dans nos vies, dans nos semaines, dans notre semaine, dans les mois à venir. Que les gens autour de nous puissent voir que notre visage brille de la fierté de notre Dieu. Amen.